Ilangé sous les arbres, une émission proposée par Hélène et Ninon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le studio de CFM, c'est Ninon qui est là. Hélène, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue. Ses activités de maraîchère, certainement, la retiennent ailleurs. Aujourd'hui, on a réussi à attraper au vol une autre maraîchère qui court entre son champ, ses cabas, ses enfants, sa famille, et qui a eu le temps de venir jusqu'à Montauban me rejoindre, répondre à mon invitation. C'est Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour Ninon.
Alors Muriel, je voudrais te présenter à nos auditeurs de CFM. Quelques-uns certainement qui nous écoutent te connaissent déjà. Et en fait, je ne connais même pas ton nom de famille.
C'est Muriel Hopi.
A-U-P-Y,
voilà.
Alors du coup, j'avais peur de tomber sur quelque chose de complètement réducteur et de dire Muriel Mumu, quoi. Forcément Muriel de Fred. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Moi, je le dis comme ça, mais voilà.
C'est Muriel et Fred, mais
voilà.
Muriel de Fred.
Mais pour savoir de quelle Muriel on parle. Mais si, Muriel et Fred. Et pour ceux qui voient pas encore, on peut rajouter le nom de famille de Fred, mais comme il est pas là, on le fera pas. Et par contre, on peut dire, mais si, vous savez, ceux de la ferme de l'arbre à cadabra.
Voilà, c'est ça. La ferme de l'arbre à cadabra. On a essayé de faire un jeu de mots, mais c'est pas compris par tout le monde. pour éditer les factures, c'est compliqué.
Oh, c'est limpide pourtant, et puis c'est très beau.
Ouais.
Alors donc, tu travailles avec Fred, qui est ton compagnon, dans une ferme que vous avez montée il y a...
Il y a 8 ans et demi bientôt. Donc en janvier 2007, on a demandé au papy qui était sur la ferme qui voulait se débarrasser des pommiers. Et du coup, Fred avait fait une petite formation en arboriculture dans les Pyrénées en alternance et il se sentait d'essayer de s'en occuper une année. Et de là, on s'est attaché au lieu et on a voulu continuer. Et on a eu une très belle année en pommes, la première année en 2007.
De quoi vous motiver?
Voilà, c'est ça. C'était super. On a cherché des débouchés essentiellement en vente directe et magasin aussi parce que on arrivait sur le marché, voilà, tout nouveau. Et du coup, on était attachés au lieu et on voulait continuer.
Vous êtes arrivés dans le maraîchage par la pomme. Finalement.
C'est ça, parce qu'en fait, l'année d'après, en 2008, aucune pomme. C'est-à-dire, on a fait une visite de ferme en avril, début avril, et le lendemain, on a dit à tout le monde, les fleurs, elles ont gelé, un coup de gel, plus de pommes, plus de contrats. Donc, on s'est dit, il faut pouvoir sortir l'épingle du jeu et pouvoir faire pousser des légumes pour vivre. Voilà.
C'est comme ça que ça a démarré.
C'est comme ça que ça a démarré avec une AMAP à Toulouse en 2008.
Ah, directement. C'est vous plantez des légumes, vous avez une AMAP.
On avait fait un grand jardin, un peu grand à mon goût en 2007, mais voilà, ça a commencé comme ça.
Ah, moi j'ai de l'espoir. Alors moi je commence à avoir un joli jardin, mais je suis pas sûre d'avoir un jour autant. J'espère que je n'aurai jamais autant à faire que vous sur votre ferme. Moi, votre ferme, je suis venue la visiter. Alors, tu me dis que c'était il y a 2 ans. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'aurais dit il y a quelques mois. Ouais. C'est pas si faux que ça. J'ai été impressionnée par la taille de votre domaine et par la quantité de choses que vous avez donc à y faire. Et tu parles d'une... On dit exploitation, c'est pas très joli. Hein.
Une ferme.
Une ferme, c'est bien ferme. On va en rester là. Tu parles d'une ferme qui a 8 ans maintenant. Moi, quand je regarde, vous avez 2 petites filles absolument charmantes. Elles ont quel âge?
Et elles ont bientôt 6 ans dans un mois et bientôt 8 ans.
Donc ça veut dire on monte la ferme.
Je suis tombée enceinte en même temps qu'on a commencé la ferme. Et voilà, on cherchait un lieu de vie, un lieu de naissance aussi pour les enfants. Elles sont nées sur la ferme.
Voilà, donc un petit peu, ça s'appelle pas la charrue avant les bœufs, mais ça s'appelle la charrue, les bœufs et puis tout en même temps,
c'est ça.
D'accord, vous êtes courageux. Et avant la ferme, t'avais, toi, une formation? Tu t'étais destinée à travailler la terre avant cette aventure des pommes?
Alors, d'ici à prendre une ferme tout de suite en main, pas tout de suite, du moins. C'est vrai que c'était un métier qui plaît forcément. Mes grands-parents étaient viticulteurs et paysans, donc dans le Gard. Et donc, ils livraient en coopérative. Donc, après, ils avaient toutes sortes d'arbres chez eux, les amandiers, les oliviers. Et ils nous ont appris quelques petites astuces comme ça. Et après, ma grand-mère vietnamienne était a travaillé dans les rizières avant d'arriver en France. Donc oui, elle avait ce côté, ce contact avec la nature. Mais à la base, je voulais être vétérinaire sans frontières. Donc j'avais fait un peu les études pour ça. J'avais un peu zigzagué en allant faire un BTS élevage. Et par là, donc on a vraiment connu le terrain, les élevages industriels et par là où on ne veut pas passer, la recherche expérimentale sur les animaux. Et du coup, ça nous a permis de rejoindre la filière grandes écoles, prépa, grandes écoles, écoles d'agriculture. Donc j'ai fait une école d'agriculture à Dijon.
Ah d'accord, donc même si le projet au départ, il n'était pas perçu de façon aussi rapide, ou même toi tu te destinais complètement à autre chose, malgré tout tu as quand même le cursus d'études qui t'a permis d'arriver là avec, sans peut-être l'expérience au départ, mais un bagage, un savoir aussi.
Peut-être une organisation dans la tête, ceci dit, toutes mes études je les ai axées sur l'élevage. Et bon, après, en élevage, on n'a qu'un tout petit atelier d'oie à Rôtir et on n'a jamais étudié les oies lors des études. Donc, c'est vraiment une totale découverte sur arboriculture, maraîchage et les oies. Voilà, c'est...
Donc, voilà, du coup, ce que tu dis, c'est les études que tu as faites, elles te permettent d'envisager comment va fonctionner la ferme et puis peut-être tout ce qui a trait à la gestion.
À trait à la gestion, tout ce qui est papier, du coup, comme on gère un peu tout nous-mêmes du début jusqu'à la fin et on part de la graine, on achète nos semences et on les fait pour une bonne partie et ensuite on va jusqu'au consommateur que l'on voit quand on les livre.
Voilà, donc vraiment toute la chaîne. Tu nous expliqueras comment ça fonctionne la ferme et comment est-ce que vous vous êtes organisé justement pour assurer vos débouchés, pour être sûr que c'est quelque chose qui permette de vous faire vivre, vous, la famille, etc. Mais on remonte encore un tout petit peu avant parce que tu parlais d'une grand-mère dans les rizières. Je peux te demander tout ce que tu peux nous raconter là-dessus. C'est moi, j'ai pas une grand-mère dans les rizières.
Plus dans les rizières. Mon grand-père, c'était pas forcément dans des conditions très réjouissantes, hein. C'était pendant la guerre d'Indochine et mon grand-père, essayait de combattre là-bas pour l'Indochine. Et du coup, il a rencontré ma grand-mère qui avait, on sait plus trop quel âge elle avait, 16-17 ans. Et mon père est né là-bas, dans le sud du Vietnam. Et voilà, elle était issue d'une famille, elle était paysanne.
Mais ton grand-père, lui, est resté là-bas. Il n'a pas fait partie aussi de ceux qui sont allés, ont fait le travail qu'on leur demandait de faire et puis sont repartis sans se préoccuper des incidences de leur visite. Ouais. Lui, il a connu ta grand-mère, il en est tombé amoureux.
Voilà, et il est resté. Et non, ils sont revenus en France.
D'accord.
Voilà. Enfin, ils ont vécu un peu au Maroc, un peu en France, en Algérie.
Donc il y a eu tout un chemin de pérégrination. Culturellement, c'est quelque chose que toi, dont tu as profité, quelque chose que dont tu as senti comme ça, ces vibrations de différentes cultures, ou alors ça t'est passé parce que
bien sûr, on le sent parce que on cherche ses origines et du coup on pose des questions, on demande des photos, mais c'est pas forcément l'idée que ma grand-mère avait de partager vraiment ouvertement ses souvenirs du Vietnam, parce que c'était dans une mauvaise période où elle a effectivement vu toute sa famille se faire tuer devant elle, voilà. Mais ça nous soulève un peu de curiosité. Et du coup, le premier stage en école d'ingénieur que j'ai fait, c'était au Vietnam avec Vétérinaires sans frontières. Et c'était super parce que c'était un rêve de connaître un peu le pays de ma grand-mère.
C'est ça, oui. Même si c'est difficile souvent moi je l'ai remarqué aussi avec mes grands-parents, il y a des périodes de l'histoire qu'il est très très difficile d'aborder avec eux. Donc en plus, quand on parle certainement de l'histoire de ta grand-mère, ça devait être quelque chose de vraiment douloureux. Elle était une toute jeune fille, toute jeune femme, quoi. Et donc elle a...
Bourges, un petit village dans le centre de la France, c'est pas évident.
Un total dépaysement.
Avec quatre enfants, c'est ça. Et puis toute seule, le mari qui repartait souvent. Et...
Ouais. Mais le métissage et puis cette ouverture culturelle... Ouais. Ça passe aussi par là, par ces curiosités dont tu parles, le fait que toi,
oui.
T'aurais certainement... Enfin, t'avais quand même l'idée de vétérinaire sans frontières, donc peut-être quand même l'idée du voyage.
L'idée du voyage, parce qu'à la base, mes parents étaient amenés à voyager un peu de par le travail. Voilà, mon père travaillait un petit peu pour l'Agence européenne spatiale en Hollande. Donc voilà, on a un petit peu transité, on était 13 ans aux Pays-Bas, et puis avant, ils ont un peu voyagé, ouais.
Elle nous raconte tout ça comme si, en la regardant, on pouvait, et je me tourne vers Damien pour qu'il soit aussi interloqué que moi, on regarde Mumu, on regarde Muriel, et on se dit, non, elle a pas pu faire tout ça, déjà. Parce que t'es, toi aussi, quand même une toute jeune femme. Enfin, en tout cas, t'as l'air. Donc, toi, ta jeunesse, tu nous parlais du Gard.
Du Gard, oui. Alors,
Mais donc, t'as été pas seulement le Gard, les Pays-Bas, le chaud, le froid.
C'est ça. Enfin, la pluie. c'était une belle expérience, les Pays-Bas, parce qu'à la base, on devait pas rester très longtemps. Et puis finalement, ça s'est trouvé qu'on est resté 13 ans et qu'on a connu, deux parties de la Hollande. Et c'est très sympa pour les jeunes, voilà. On s'adapte très bien, les canaux en hiver gelés, les lacs gelés, on sort les patins et puis c'est parti. Et puis la saison des chars fleuris aussi en mai, avec toutes les corsos fleuris, avec toutes les jacinthes et le travail qu'il y a derrière, c'est super aussi. Enfin, il y a plein de faces qu'on ne connaît pas de la Hollande et qu'on connaît peut-être plus. Je ne sais pas si ça fait 20 ans que, bientôt 20 ans, que je n'y suis pas allée. Donc, voilà, il y a des choses qui ont dû disparaître.
Et alors, toutes ces destinations que toi, tu as eu la chance de, enfin, où tu as pu aller, tous ces endroits où tu as pu vivre, ou alors te déplacer, comme aller au Vietnam, comme vivre aux Pays-Bas, ça te donne envie aussi de voyager avec tes enfants pour transmettre ça, ce regard vers peut-être une autre image d'autres pays, pas la stéréotypie qu'on a, pour découvrir vraiment à quoi ressemblent les pays. C'est quelque chose que t'envisages?
De là, voyager avec elle tout de suite, je sais pas, mais en tout cas, on leur donne l'idée ou l'idée que le voyage, finalement, c'est sûr, c'est pas écologique, mais ça ouvre vraiment les portes à une vision que plein d'autres choses sont possibles et que plein d'autres visions, d'autres peuples. Voilà, sont possibles aussi, ouais.
Puis tu disais à nouveau tout de suite, mais certainement tout de suite non, parce qu'on va revenir sur le travail de la ferme. Et puis vous avez certainement pas exactement le temps, juste le temps d'être venu aujourd'hui pour bilinguer.
Love is over, 请你不要再提起失去的爱已失去，谁也不必再追忆。Love is over， 请你不要再说明，过去就像流雨，随风飘去无踪影。Love is over。虽然也曾叹息，虽然也曾悲泣，如今都已成过去。Love is over， 时光匆匆如流水，流水抚平我心灵，创伤早已无痕迹。虽然过去你曾对我表示过真情意，也曾对你许下诺言，今生我永不渝，为何你一去无音讯，撕碎了我的心。Love is over， 请你不要再提起失去的爱已失去，谁也不必再追忆。Love is over， 请你不要再说明过去就像流雨，随风飘去无踪影。 正轻易，也曾对你许下诺言，今生我永不渝。为何你一去无音讯，撕碎了我的心。 Love is over， 请你不要再提起失去的爱已失去，谁也不必再追忆。Love is over， 请你不要再说明过去就像流云，随风飘去无踪影。虽然过去你曾对我表示过真情意，也曾对你许下诺言，今生我永不渝。为何你一去无音讯，撕碎我的心。 Love is over。
Donc là c'était Wavy. Et le titre, enfin le titre de l'album entier, c'est Bridge Over Water. Et c'est une artiste que, enfin, j'ai connu ce CD par mon tonton qui habitait en Chine à l'époque, et on a été le voir avec ma sœur en vacances pendant 2 semaines, et voilà, il travaillait là-bas, et du coup c'est une artiste chinoise qui parle un peu toutes les langues. Bon là elle parle en anglais, mais elle fait des très beaux titres en chinois, en espagnol, voilà. Une diva chinoise.
Donc encore une qui, au moins par les langues qu'elle parle, te fait voyager. Tu parles de ton tonton en Chine, c'est ton tonton vietnamien ?
Non, c'est tonton français.
Ah, c'est le tonton
qui
français.
Qui est marié avec ma tata originaire du Vietnam. Enfin, elle est eurasienne du coup.
D'accord.
Voilà. Elle est un peu diluée.
Comme nous tous, voilà. Comme nous tous. Et puis tu dis cette chanteuse qui a là chanté en anglais, qui chante aussi en chinois, qui chante en espagnol. Mmh. Pendant qu'on l'écoutait, tu me parlais d'autres magnifiques voyages que tu as pu faire dans le cadre de tes études, et en particulier en Argentine où on parle aussi l'espagnol.
Et oui, et surtout il faut se dépêcher d'apprendre quand tu arrives tout seul au milieu de tout ce monde qui parle avec cet accent argentin. Mais c'est très beau, l'accent argentin, c'est un peu chantant. Ça va pas si vite que le catalan, donc ça va pour apprendre. Et c'est un magnifique pays qui a malheureusement un peu vendu toutes ses richesses il y a quelques décennies.
Oui, et puis qui est passé aussi par une part d'histoire assez atroce.
C'est ça, et puis qui a été plus riche pourtant que la France il y a quelques temps. C'est un très grand pays, et moi j'y étais dans le cadre d'un stage, mon mémoire de fin d'études de l'école d'agriculture. Et du coup, c'était un peu sur les problématiques d'élevage en altitude, dans le désert du nord de l'Argentine, à côté de la Bolivie. Donc c'était très très beau, sur la Puna, avec des vigognes. On travaillait avec des vigognes, des lamas, et tous les agriculteurs, enfin tous les éleveurs assez infortunés, voilà, avec toutes les problématiques aussi entre les gens du désert et les gens des villes.
Là, on mesure bien effectivement la différence qu'il peut y avoir entre les études qui, par ailleurs, t'ont apporté plein de choses et au moins ont permis aussi ces voyages. Mmh. Et puis, effectivement, ta situation de travail maintenant à la ferme, ici, dans le Tarn-et-Garonne. Mais il y a des lamas, quand on va vers Vaour, il y a je pense que c'est un élevage. Enfin, en tout cas, ils sont un bon troupeau. Quand même, comme quoi on peut élever des lamas ici aussi.
Oui. Après, c'est pas pour les mêmes conditions, parce que là-bas, ils se servent vraiment de tout.
Ouais. Le lama est un bison là-bas. Hein.
C'est ça. Et puis même un animal de compagnie, parce que quand il y a, voilà, les enfants, ils ont pas joué en plastique là-bas dans le désert, et du coup, le lama rentre dans la maison et vient par derrière et te fait un gros câlin dans le cou, et ça fait bizarre.
C'est vrai que ça crache le lama.
Ouais, mais vraiment, faut l'embêter, ou faut vraiment le titiller, ouais.
Ouais, quand lama va content, lama crache souvent.
Oui, c'est vraiment agréable comme animal. Puis ils s'en servent aussi pour faire le rituel aussi, lors de l'époque de la Pachamama aussi, de tout ce qui est, puis tout est vraiment conservé, tout est vraiment fait dans le respect de la nature.
Alors même si c'est pas exactement les études et les sujets d'apprentissage qui t'ont été proposés pendant ce temps-là que tu peux mettre toi en œuvre dans ton activité maintenant, toutes ces expériences-là et du coup la rencontre aussi d'autres peuples, d'autres cultures, tu parlais des rituels là à l'instant, ça influe sur ta façon par exemple de voir la terre, de penser avec elle puisque c'est une terre qui pour le coup te nourrit ta famille et nourrit aussi toutes les personnes que ta ferme permet de nourrir, à qui tu apportes les fruits, les légumes. Ça vient de là aussi ou...
Ça vient en partie de là, j'imagine, c'est inconscient, mais après c'est difficile de pouvoir transposer la façon dont on aimerait vraiment et dont vivent les gens par tradition et par respect de la nature ailleurs, et de pouvoir le transposer si on veut aussi en vivre ici, faut pouvoir aussi se caler sur certaines pratiques agricoles, et ce qui est un peu des fois dommage, mais
oui, voilà. Puis on est dans un rythme, dans un système qui est propre à l'endroit où on
vit. Au monde occidental aussi, oui.
C'est ça, c'est très différent.
On peut courir un peu partout.
Alors si tu veux bien Muriel, on revient un petit peu du coup ici en Tarn-et-Garonne.
Oui.
Une fois qu'on commence à comprendre tout ce que tu portes toi en toi comme richesse et qui te permet de chaque jour finalement d'accomplir ta tâche, de vivre ta vie avec les tiens, avec et ta ferme elle est située donc en Tarn-et-Garonne dans une commune, la commune de Labarthe.
C'est ça.
C'est du côté de Vazerac là-bas.
C'est ça, au-dessus de Vazerac et on est à 3 km du Lot.
Voilà, c'est vraiment frontalier, le nord-nord du... Enfin, le nord du Tarn-et-Garonne, sur ce côté-là du Tarn-et-Garonne. Oui. Ça monte un petit peu plus haut quand on part un petit peu plus à l'ouest.
Sur le Quercy Blanc. C'est assez vallonné, c'est assez joli. Pas très sauvage, mais de toute façon, le Tarn-et-Garonne, c'est très agricole.
Je peux poser une question bête.
Oui.
Tu dis Quercy Blanc. Moi, quand je suis venue chez vous pour la ferme ouverte, la visite de ferme, c'était donc il y a 2 ans, je suis repartie avec mes chaussures. alors, c'était des grosses chaussures, certes, mais elles avaient une semelle absolument extraordinaire de terre blanche, bien lourde, accrochée, de véritables semelles comme de spationautes. C'est une terre blanche. C'est pour ça qu'on dit Quercy Blanc.
Oui, alors, peut-être t'es repartie quand même avec la terre d'en bas. Donc, elle n'est pas si blanche que ça. C'est la terre rouge, bien amoureuse. Là, bien argileuse.
Oh, mais même la blanche école, moi je te le dis.
Et c'est pour ça, oui, qu'on dit à la base, sur le plateau, un peu plus haut que chez nous, il y a plein de cailloux aussi. Et du coup, c'est assez calcaire. Le calcaire n'est pas trop actif sur notre ferme encore. C'est un avantage.
Alors, on disait, on ne transpose pas forcément, mais même ici, même si on prend le tout petit département du Tarn-et-Garonne, et peut-être même sans s'éloigner beaucoup de ta commune sur laquelle tu fais cette agriculture. Certainement aussi les sols, c'est très spécifique. Et est-ce que ça a une influence sur les cultures que vous pouvez faire, que
sur le dénivelé aussi, sur le fait qu'on soit en coteau, qu'on puisse, on a pu planter des arbres et du coup c'est assez adapté aussi au pêcher, à tout ce qui est agriculture un petit peu. Diversifier, comme ça on essaye de planter différentes sortes d'arbres et pour faire des melons et des pastèques, c'est un peu mieux en coteau qu'en plaine, voilà.
D'accord, d'accord.
Plus, ça draine plus et les terres que l'on a, elles sont pas mal.
Elles sont bien adaptées pour ça. Alors ta ferme, si on veut un petit peu l'imaginer, enfin votre ferme, si on veut un petit peu l'imaginer, c'est une belle bâtisse. Une belle maison qui est un petit peu comme sur le haut d'une colline, même si je crois que ça monte encore un petit peu au-dessus, avec des bâtiments, des hangars. Et puis ensuite, là, ça part comme ça en vallon. Il y a une partie où vous avez un maraîchage
tout en bas,
de plein champ. Il y a des serres.
Il y a 2 serres de, je sais pas, de 700 mètres carrés, les deux.
Les deux réunis.
Voilà, les deux réunis.
C'est énorme. Et puis, vous avez la partie avec les arbres, le verger.
Oui.
Donc, ça fait comme ça un étagement de plein de propositions différentes. Mmh. Et tout ça, ça fait un équilibre. Ça, plus le petit atelier où a rôti, mais les oies, bon sang, avant d'être rôties, elles sont là dans la ferme, elles courent partout.
Oui,
et des herbes.
Du coup, les petites oies, on a deux races. On a les oies d'Égypte qui ont le pompon sur la tête, là, un petit peu grise et blanche, du coup, à l'âge adulte. et on a les oies de Guinée blanches. Du coup, on les prend un jour, elles sortent de la coquille et elles savent déjà très bien se débrouiller. On les garde au chaud sous la lampe pendant 3 semaines et après, elles commencent à avoir un petit parc, à s'agrandir et à manger l'herbe tout doucement. Et on leur fait aussi germer du blé ou du triticale. On leur fait des graines germées. Voilà.
Et elles se promènent partout sur votre terrain. Moi, c'est ce que j'avais retenu.
Alors, le terrain qui est clôturé, hein, parce que des fois, elles arrivent à trouver la faille pour s'échapper dans les salades. Et en une heure, 400 salades, c'est mangé.
Et ça fait partie de ce que vous recherchez dans un équilibre, un écosystème.
Oui.
Parce que ces oies, non seulement elles mangent, vous les vendrez. Mais alors, est-ce qu'elles fument?
C'est peut-être pas un équilibre total de la ferme parce qu'on a quand même peut-être trop de maraîchage par rapport à la fumure qu'elle donne, mais du coup ça apporte une petite cohérence sur la ferme. Voilà.
On n'a pas précisé, mais je suis sûre que les auditeurs de CFM et de Bilanguer sous les arbres, ils s'en sont doutés dès le départ. Vous êtes une ferme en maraîchage biologique.
Oui, et c'est vrai qu'on pensait pas faire autrement depuis le début, et de part aussi le contact avec les paysans qu'on a rencontrés quand on travaillait à l'ADEAR.
C'est quoi,
l'association, l'association de développement de l'emploi agricole et rural du Tarn-et-Garonne, qui était basée sur Montauban et qui émane côté développement de la Confédération paysanne. Donc diagnostic, agriculture paysanne, et puis un petit journal agricole, et puis des aides à l'installation, montage de dossiers, etc.
Et là, vous fréquentiez donc plutôt
des paysans passionnés, qui même pas forcément bio, mais passionnés par leur travail et qui nous ont donné envie de mettre un pied sur une ferme et de pouvoir travailler, essayer du moins.
Birmingham and Mobile, not the Baton Rouge. Smoking cigarettes and reefer, drinking coffee, boo. See the sun coming up in Georgia, go down in New Orleans. Never get to know a woman, instead of getting her jeans. Sometimes we make money, sometimes we don't know. 13 days went by. Migrant worker is the name of this man. When we come to your town, but it's easy as you can. Well, we've been to California, we've been to New York. Some take with me, others take dope.
Alors ça, c'était Gigi Kale, et le titre de la chanson, c'était 13 Days. Voilà, et bon, après, c'est un artiste, ça me plaît. Ça me plaît, ça fait longtemps que j'ai le CD, que j'écoute, parce que c'est toujours, c'est pas violent, c'est toujours très rythmé, et c'est sympa.
Et puis alors en plus, moi j'ai le droit de dire les secrets.
Ça rappelle des belles années.
Ah super, j'ai le droit de dire les secrets du studio. J'ai dit ce matin, Muriel, tu te souviens que tu dois venir avec 3 musiques. Oups, elle est arrivée avec sa discothèque entière. Et en vrai, on passe les disques qui passent. Parce que à la ferme, il y a des travaux, il y a de la poussière, les disques ils sont un petit peu rayés par-ci par-là. Il y en a qui passaient pas, mais lui, on a eu de la chance, du duquel lui il passait. Alors super. Cette ferme, c'est un projet de vie. Total, vous, comme tu disais tout à l'heure, on cherchait un lieu pour vivre et un lieu pour faire naître nos enfants, mm-hmm. pour pouvoir... Vous en avez deux, vous en prévoyez d'autres ?
Pour l'instant...
pas tout de suite,
non,
donc.
Elle est voyante. Non. Pour l'instant, ça va.
Je dis
ça
que
se passe
poser...
super bien comme ça.
Ouais, c'est bien deux. La différence entre deux et trois, ouais. Elle est énorme, moi je vous le dis. Mais
ah
c'est
oui.
chouette, trois aussi.
Ah oui,
si je dis le contraire, mes
envie,
enfants, ils vont m'en vouloir. Donc voilà, donc un joli lieu, mais ça veut dire une maison dans laquelle il a fallu, en plus de la ferme, de monter cette ferme.
Mais à la base, on n'avait pas 8 hectares. Hein. On n'avait pas 8 hectares pour s'occuper comme ça. Mais on avait déjà les pommiers entièrement et une petite parcelle de maraîchage où on s'est essayé pour faire quelques légumes. Donc ça a bien marché. Et c'est que plus tu t'agrandis et plus tu disperses aussi. Et moins les choses sont bien faites. Mais on a acheté les 8 hectares entièrement. En demandant plusieurs fois au papy parce qu'ils n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Il y en avait un qui voulait vendre, l'autre qui voulait pas trop. Et du coup, fin 2008, voilà, on a acheté, on a commencé à planter tout de suite de la vigne de raisin de table et les arbres, le temps que ça donne.
Et dans le même temps, donc, des travaux dans la maison d'habitation pour pouvoir vous faire un petit foyer, un petit cocon.
Il y avait rien, voilà. Il y avait pas du tout de bâti sur la ferme. Et c'était un peu le challenge. C'est-à-dire qu'on a posé la yourte. On avait 2 yourtes dans les bois. Et donc, c'était le temps qu'on construise entièrement une maison en paille au saturbois. Et donc, enduit chaud à l'extérieur, terre à l'intérieur. Voilà. Avec plein de chantiers participatifs et des copains qui sont venus nous aider
chaque année. C'est une très belle maison avec des très beaux volumes et c'est vrai que certainement il fait bon y vivre. Et vous avez aussi les bâtiments extérieurs qui sont les bâtiments agricoles que vous avez dû faire aussi totalement ou alors il existait quelque chose ?
Non, il n'existait rien. Donc terrassement fait en 2009 ou 2008 et du coup pose d'une charpente pour faire le hangar et le diviser en 3 parties. Une petite partie pour mettre... le tracteur, ensuite pour la salle de tri pour nettoyer les légumes, les trier, et ensuite la future chambre froide, donc qui est sur le même principe que la maison, c'est-à-dire en paille, les murs sont en paille, chaud à l'extérieur, et par contre on va être obligé pour laisser l'humidité, enfin le faire que ça soit vraiment une chambre froide à 2 degrés pour conserver les pommes, de faire le plafond en panneau sandwich. Ça va être le seul bémol de la construction écologique.
D'accord, sinon ça existe ça, une chambre froide en paille avant la vôtre.
On s'est un peu renseigné et
vous
dans
avez
le
trouvé
coin,
des,
on
des
pas,
modèles
non, on n'a pas trouvé de modèle, donc ça va être un peu un prototype, on vous dira si ça marche pas.
Ah ouais, c'est sûr. Et puis alors tout à l'heure tu disais, oh, je peux pas annoncer de date, il n'y a pas de date, on dit qu'il n'y a pas de date, mais quand même cette chambre froide, vous êtes content de l'avoir arrivée au bout de sa réalisation, de
bientôt,
pouvoir l'utiliser bientôt aussi. Vous allez faire une fête, non, pour ça, qu'on revienne chez vous.
Ni non, toujours partante.
Mais
ouais,
oui.
Mais oui,
je ferai la musique.
Et bah oui, peut-être l'année prochaine.
Voilà.
Rendez-vous l'année prochaine, au printemps.
Peut-être à nouveau une ferme ouverte. Ça,
c'est
c'était
ça,
un
ouais.
moment très agréable. Alors, tu vas pouvoir nous en dire quelques mots. C'est un rendez-vous qui se passe dans des fermes différentes. On arrive dans la ferme. On découvre l'exploitation, on peut visiter, on rencontre les fermiers, les paysans qui travaillent là. Et puis, il y a aussi des conférences différentes. Moi, j'avais rencontré des gens extraordinaires. Ben, dont Christian, qui a fait une conférence et puis qui est venu ici à Bilangué au tout début de la saison. Et puis d'autres qui nous ont raconté des choses extraordinaires sur les structures de sol, etc., etc. Donc c'est vraiment une découverte, c'est ouvert au public. Ça s'est fait chez vous donc il y a 2 ans. L'année dernière, il y en a eu...
Non, c'était dans la même année, il y a eu aussi
ah oui,
celle
vous,
de Nicolas
Tessédou
et celle de Cécile et Ludo à Cazes-Mondenard. Alors vraiment, c'est à la carte, c'est selon ce que souhaite le producteur sur sa ferme, savoir s'il veut accueillir pour la fête et savoir ce qu'il souhaite si donc c'était à l'initiative de Bio 82, l'association le groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne, Et donc le programme peut être déterminé par les agriculteurs eux-mêmes. Donc ce qui avait été le cas chez nous, on a voulu faire le programme entièrement en proposant des choses pas forcément spécifiques à l'agriculture biologique, mais qui peuvent s'adapter à toutes les agricultures en évolution. Et du coup, on voulait vraiment qu'il y ait des personnes, des agriculteurs du coin, des voisins, et qu'on puisse rencontrer les voisins sur la ferme.
Ouais, c'était un joli succès. Ouais. Moi, j'étais aussi allée à Caussade, à la petite ferme de Nicolas Tessédou, dont tu parlais. Aussi, des trompes d'eau pour clore la soirée. Ouais. Mais on était abrités sous le hangar. On a pu, parce que souvent, ça se termine. On y mange bien, forcément. Mais aussi, il y a des groupes de musique. Peut-être que c'est pas tout le temps pareil, mais qu'est-ce que c'est agréable quand on finit comme ça une belle journée dans une ferme par un moment festif.
Le festiferme, à la base, si dans le nom, comme le nom l'indique, on essaye de finir par un concert ou même de faire un apéro-concert. Comme Ninon nous l'a suggéré le 8 juin il y a 2 ans. C'était super. Merci Ninon.
Oui, ça c'est chouette. Et puis j'espère que ça se fera l'année prochaine et on l'annoncera pour retrouver plein d'amis là-bas. Donc là, tu as évoqué justement Bio 82, qui est une association d'agriculteurs bio et puis qui permet d'organiser ce genre de rencontres, faire connaître vos fermes. Il y a une autre association dont tu fais partie, il me semble, qui s'occupe, elle, plus spécifiquement, de la distribution.
Oui, alors de la commercialisation de produits bio et locaux. Et donc, c'est quelques producteurs, il y a 6 ans maintenant, cette année, de Bio 82, donc, qui ont monté ça. Et ils étaient que 5 à la base, il y a 6 ans. Et donc, il y avait quoi? Il y avait de la viande, il y avait des légumes, des produits laitiers avec Nicolas Tessédou. Et donc, ils ont commencé à faire quelques paniers un peu dans le Tarn-et-Garonne. Donc, en fait, c'est un site internet sur lequel on trouve directement les produits en ligne à commander. Et donc jusqu'à mardi soir minuit, et après les agriculteurs peuvent savoir ce qu'il faut préparer pour amener la marchandise le vendredi matin à cette fond. Et de là, on fait tous les paniers et on les dispatche dans les 10 dépôts du Tarn-et-Garonne.
Alors ça s'appelle Graines de Terroir. C'est un site internet, on va mettre le lien sur la page internet de Bilanguet, comme ça il faut adhérer, il faut s'inscrire, ou c'est totalement libre, comment ça passe? Moi j'ai jamais commandé à Graines de Terroir, là, si je veux le faire, on va dire que j'ai une connexion internet qui fonctionne, et que je veux le faire, je fais comment?
Et vous allez sur le site internet, vous regardez le numéro de téléphone qu'il faut appeler, et du coup on va vous donner un numéro d'identifiant et un code, un mot de passe. Et avec ce mot de passe, vous pourrez aller quand vous voulez. Il n'y a pas d'obligation d'achat, ni de régularité, ni de montant minimum à prendre.
D'accord. On fait
vous allez sur le site, vous faites vos courses. Vous vous attendez bien d'avoir confirmé la commande, validé la commande, et recevoir le mail de confirmation sur votre mail perso. Et vous recevez ensuite, dans le dépôt de votre choix, que vous aurez coché auparavant, votre panier. Donc vous pouvez avoir autant du vin que des plantes médicinales, que du yaourt de brebis.
D'accord, voilà. Donc il y a vraiment...
Les légumes et les fruits.
C'est très varié. Tu parlais de 5 producteurs au départ. Maintenant, vous êtes combien?
23.
Pour le Tarn-et-Garonne.
Voilà.
D'accord, c'est beaucoup, c'est bien.
Ouais, c'est pas mal,
Ça veut dire qu'on peut absolument tout avoir là. Tu parles de dépôt aussi. On peut cocher un dépôt de son choix. Ça veut dire que vous avez vraiment maillé le territoire et que très loin de chez soi, on peut trouver un endroit où ça va nous être livré.
Et à la base, c'était plus dans le pays midi-quartier, autour de Caussade. Donc ça s'est un peu plus étendu avec les producteurs qui viennent de par Case-Mondenard. Et on tient un dépôt à la Française et bientôt à Lauzerte.
D'accord. Et tu nous parlais de cette fond. Pourquoi?
Alors cette fond, c'est le lieu où est basé les deux associations Bio 82 et Graines de Terroir. Et le lieu donc où on prépare les paniers.
D'accord. Donc vous allez avoir le mardi à minuit les courses, enfin les listes de courses pour les personnes sont closes.
Ouais.
Donc le mercredi matin, c'est dispatché par producteur. Vous savez ce que vous devez livrer.
Ce qu'on doit préparer pour le vendredi matin.
Préparer et livrer le vendredi matin à cette fond. Et de là, c'est réparti en paniers qui vont être acheminés sur les différents
points. C'est ça. Et le vendredi, en général, les dépôts commencent aux alentours de 5h jusqu'à 7h, ou de 5h30 jusqu'à 6h30. Et les gens peuvent venir retirer et faire un chèque et avoir la marchandise directement sous les yeux. Et pour certains dépôts, avoir le contact avec un des producteurs.
D'accord.
Ça tourne.
C'est, voilà, donc vous essayez aussi d'être sur les lieux de dépôt pour pouvoir rencontrer les personnes. Bon, ça c'est intéressant. On va marquer le nom du site. Tu le connais par cœur ? On peut le dire aussi à l'antenne ?
www.graines, au pluriel, attaché de terroir.com.
Ben, c'est tout facile en fait. Donc ça c'est une façon pour vous de toucher des personnes, de pouvoir commercialiser une partie de vos produits.
C'est un débouché et c'est assez sympa aussi dans le fait que comme c'est une association de producteurs, on se rencontre souvent et donc on fait des réunions une fois tous les mois ou tous les deux mois. Voilà, pour voir comment on avance, les axes de développement, comment est-ce qu'on peut s'en décéder, etc.
C'est ça, parce que en tant que consommateur, on peut voir juste le côté pratique. J'ai mes produits et légumes frais, biologiques, qui arrivent dans un local proche de chez moi. Ça, c'est le côté qu'on voit nous, et c'est très pratique. C'est par Internet, il paraît que ça se développe partout dans les supermarchés, vous savez. Et puis par contre, pour vous, il y a une dimension aussi de partage
humaine,
de solidarité aussi entre les producteurs.
De relations sociales aussi avec le consommateur et les producteurs entre eux,
Graines de terroir, super.
Et du coup, l'année dernière, tu es venue jouer un petit peu de musique pour une fête pour les 50 graines de terroir à la française.
C'était l'anniversaire, les 50 graines de terroir.
Et on avait fait cuisiner des produits de graines de terroir au restaurant L'Art du Temps à la française.
C'est ça,
tout le monde s'était régalé.
On avait fait un super bal, c'est une place légèrement en pente, c'est super pour danser.
Alors, c'était Lhasa. et le titre de l'album, c'est La Llorona. Voilà, la pleureuse. Mais du coup, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Après, elle parle espagnol, c'est sûr. Mais c'est De cara a la parada.
De cara a la parada, ouais, je crois. Ouais.
Et du coup, voilà, c'est à écouter quand il pleut aussi, c'est sympa.
La pleureuse pour quand il pleut. Ça met du soleil ou
La mélancolie, non, c'est sympa.
Alors, on évoquait le réseau Graines de Terroir pour ce qui est de la partie distribution et puis vous, de ce qui va être important pour vous entre producteurs, paysans. Alors là, paysans bio. Par contre, tu évoquais tout à l'heure la Confédération Paysanne où on va être avec des gens passionnés par leur métier et militants par le biais de la conf, mais pas forcément tous bio. Là, vraiment, dans votre petit microcosme des paysans bio, vous pouvez vous retrouver au sein de Graines de Terroir et avec Bio 82. C'est avec eux que vous organisez aussi la foire bio de Montauban.
Il y a un partenariat entre la foire bio, l'association qui s'occupe de la foire bio.
Ah, il y a une association spécifique.
Oui, Écosynergie.
D'accord.
Voilà, mais il n'y a pas vraiment de lien spécifique entre Bio 82, à part un partenariat. Et du coup, là, cette année, Bio 82 va intervenir sur le thème du maraîchage et un atelier conférence. Voilà. Après, on est bénévole, oui. Cette année, on commence à être bénévole pour organiser la foire bio. Et ça va être cette année le 20 septembre 2015, à Eurythmie, toujours sur le site d'Eurythmie. Oui.
Donc c'est un rendez-vous qui est un petit peu lointain, mais pour s'en souvenir, c'est pas loin de l'équinoxe. Je le sais, puisque les copains qui vont à la foire bio, ils peuvent pas venir à la fête d'équinoxe à la maison.
Et oui.
Mais je vais essayer de réfléchir à ce qu'on se cale les dates mieux cette fois. Donc une foire bio où on peut retrouver du coup des ateliers, des conférences, des producteurs.
Voilà. Globalement, 170 stands qui mêlent producteurs, artisans... la très bonne restauration, voilà. Après des jeux, des animaux en balade, notamment des ânes. Après, il y aura plein d'animations, tant pour les enfants que les adultes, des ateliers cuisine et plusieurs petites conférences qui jalonneront un peu cette journée, notamment deux conférences importantes sur l'influence des pratiques agronomiques sur la santé avec Marc Dufumier. Voilà, il est assez connu dans le domaine, agroécologiste, et Jean-François Narbonne, qui étudie la toxicologie des différents produits sur la santé des humains, l'effet cocktail, etc.
Alors c'est encore un peu tôt effectivement pour l'annoncer. Le 20 septembre, on va s'en souvenir. Ça doit tomber le troisième dimanche de septembre. Les conférences sont à 15h et vous avez déjà les petits flyers qui sont édités. Donc vous en retrouverez, j'imagine, dans toutes les épiceries bio et dans tout un tas de lieux sur Montauban ou ailleurs d'ailleurs.
Ou ailleurs, c'est bien Montauban, justement d'en mettre.
Pour pouvoir faire la publicité pour cet événement. Auquel peut-être je pourrais venir, un de ces quatre. Donc la foire bio, un rendez-vous un petit peu loin, mais un rendez-vous, on a un rendez-vous encore plus loin, c'est votre grande fête chez vous. Mais là, on viendra annoncer la date plus tard, mais je ne vais pas vous lâcher, hein, j'y tiens.
Avant, il y a la foire bio de La Française, qui a lieu le premier dimanche du mois d'août.
Cet été, voilà, premier dimanche du mois d'août.
Voilà. Et bon, c'est une foire bio qui a une taille un peu plus modeste, mais qui est toujours très sympathique autour de La Française et...
Ah oui, pour le coup, moi j'y étais cette année puisque j'y suis allée avec Pichu Tilio, la petite marionnette violonneuse, et j'étais étonnée parce que c'est quand même grand. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont là.
Et le village est investi et c'est assez sympathique comme rendez-vous, ouais. Il ne faut pas le louper.
Il y a d'autres foires bio dans le Tarn-et-Garonne
De mémoire.
À ta connaissance, comme ça, de mémoire.
Il y a des marchés bio.
Ouais, voilà, il y a les marchés bio, mais en grande foire, là, comme ça, une grande journée qui rassemble plein de monde.
Avant, existait la foire bio de Moissac, mais maintenant, c'est devenu, je sais plus quel nom on donne à la foire, foire, je sais plus, foire bien-être ou foire, je sais plus.
C'était une question piège à laquelle on ne sait pas répondre, mais sait-on jamais. Bon, en tout cas, la française au mois d'août, et puis le premier dimanche, et puis le 3e de septembre, c'est à Montauban. Celle-ci, elle est quand même bien connue, et puis il y a pas mal de monde qui y vient quand même.
Et oui.
On va arriver au terme de l'émission, Muriel. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous parles aussi d'une autre façon de distribuer vos produits. On l'avait évoqué déjà quand Chantal et Christian Laval étaient venus ici, parce qu'ils fonctionnent aussi sur la base des paniers. C'est la création d'une AMAP qui vous permet d'avoir aussi un réseau de distribution, alors plus pérenne. Que la commande hebdomadaire qu'on peut poser sur le site de Graines de Terroir, où vous
ou
savez jamais à l'avance ce qui va acheter quoi, dans quelle quantité. Oui, les marchés, parce que vous êtes des maraîchers qui allez sur les marchés.
Un petit marché le dimanche, 6 mois dans l'année, à Castelnau-Moratier dans le Lot. Et après l'été, juste juillet-août, où le mercredi soir, c'est un marché de producteurs. Et donc on a le stand de fruits et légumes et on fait un petit peu à manger. Voilà.
Ça, c'est où?
C'est à Castelnau-Moratier, dans le Lot. Les deux, voilà.
D'accord. Donc, voilà, le marché pour pouvoir aussi rencontrer les personnes à qui on vend les produits. Et puis, vous avez une AMAP. Donc, une AMAP, c'est des gens... Tu peux nous réexpliquer comment
c'est
ça fonctionne?
C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne dans le sigle. Et donc, c'est un partenariat entre un producteur et un groupe de consommateurs qui est donc prêt à venir chaque semaine récupérer une part de récolte au lieu de distribution annoncée, aux mêmes horaires. Et donc, même pendant les vacances d'été, par exemple, où effectivement, les maraîchers, ben, c'est au moment où toutes les tomates donnent ou tous les légumes d'été donnent. Après, les consommateurs s'organisent entre eux pour chercher... soit les faire chercher les légumes, soit par de la famille, soit par des amis, quand ils sont pas là, quand ils sont en vacances. Et être un petit peu conscient de la problématique d'une petite agriculture à maintenir localement et sans produits chimiques utilisés. Voilà, en fait.
C'est que c'est un engagement annuel. Et en fait, quand tu as une personne qui va être partenaire ou un groupement de personnes qui va être partenaire de ta ferme de production, tu sais que chaque semaine, il va falloir, et ça te permet produire autant pour pouvoir livrer à peu près autant de légumes pour faire manger tous ces gens-là. Et du coup, ça te permet de pouvoir gérer la quantité de semences, les plantes, tout ce que vous allez planter. C'est une façon de gérer aussi la ferme avec quelque chose de stable, en fait.
Et donc, on en a une au centre de Toulouse, à côté du Capitole, et voilà, fruits et légumes, et on fait aussi juste des AMAP fruits, voilà, où on peut mettre en fonction de la saison, de la maturité des fruits sur la ferme, et remplir le panier, ainsi de suite. Et après, l'intérêt, c'est aussi de connaître et de partager un peu les problématiques de cette agriculture-là avec les consommateurs, et qui viennent au moins une fois ou deux par an sur la ferme, et vraiment voir... mettre un visage sur les produits et...
Ils viennent pour visiter...
Se connaître aussi entre eux, connaître les agriculteurs.
Pour visiter la ferme, pour faire un petit moment partagé, vous manger ensemble.
Chaque année, on essaye d'inviter, quand il y a des pommes, bien sûr, lors de la pressée de la pomme, c'est assez festif, c'est assez sympathique et très pédagogique aussi pour les enfants. Et voilà, on goûte le jus de pomme frais.
Et est-ce que parfois, ils viennent pour donner un coup de main sur la ferme? Moi, je sais que ça se fait à certains endroits.
Alors, nous, c'est surtout comme ils viennent de loin quand même, de Toulouse. Après, on a une petite AMAP sur la française. L'intérêt, c'est quand même de faire connaître la ferme. De là à partager éventuellement, on peut montrer une tâche le matin, là, au début. Montrer ce que c'est, par exemple, les semis de choux, de courges. Ou montrer ce que c'est que le désherbage de la carotte pour que les gens se rendent vraiment compte.
De la valeur de la carotte. On parle même plus de prix, on parle de valeur de la carotte.
Oui, parce que quand on est diversifié comme ça, qu'on essaye de faire tous les légumes possibles en hiver et en été pour remplir et diversifier le panier. Du coup, ça demande une organisation et pas forcément d'investissement dans matériel et faire de la carotte. On peut pas faire de la carotte de façon industrielle comme le font d'autres, même en bio. C'est pas faisable.
Donc, je sais plus. Je voulais te dire quelque chose. Et puis, avec ta carotte industrielle, tu m'as complètement coupé le caquet. C'est quelque chose d'incroyable. J'étais en train de penser à cette visite de ferme avec les personnes qui viennent et puis qui voient comme ça, effectivement, qui se rendent compte que d'une petite graine, d'une petite semence, ils ont les paniers de légumes qui arrivent derrière. Ouais. Oui, ce que je me disais, c'était la valeur de la carotte. Mmh. Vous réussissez à en vivre?
On réussit à en vivre. Oui, oui, on en vit, on en est très content. Après, c'est aussi parce qu'on a cherché à vendre de façon directe et à connaître essayer de se caler sur aussi les envies des consommateurs et d'aller jusqu'au bout de la démarche.
Donc, c'est une petite ferme sur la colline, des grands champs derrière, deux magnifiques petites filles, Fred Mumu qui sont là et qui nous animent tout ça d'une main de maître. Ça donne la ferme de l'Arbre à Cadabra. Si on a envie, on peut venir s'y promener?
Oui, mais il faut quand même appeler avant parce qu'on n'est pas souvent là. Et
faut passer un petit coup de fil. Et voilà. Vos coordonnées, ben, ça doit être facile à trouver parce que vous êtes à Graines de Terroir, vous êtes à Bio 82, on peut vous trouver un petit peu partout. Et puis, toutes les coordonnées qu'on pourra remettre, la date de la foire bio, etc., ça va se trouver sur la page du site de Bilanguet sous les arbres. Il me reste à te remercier, mais infiniment, Muriel,
merci
pour avoir participé
beaucoup,
à cette émission. Et puis, je vais te rendre à tes carottes, tes choux, tes navets, tes betteraves
merci.
Et tes champs.
C'est pas évident de parler, tu m'as rendu la tâche facile.
Merci beaucoup, à tout bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir.
CFM. Bon week-end.